Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans une analyse qu'on peut lire dans Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite aux éditions du Seuil, Pierre Rosanvallon explique que les outils dont nous disposons, comme les statistiques sur les revenus, les données sur le niveau de vie, ne sont plus très efficaces ni très opérants pour comprendre le mouvement des Gilets jaunes. Il peine, d'après lui, à décrire ceux pour lesquels ce qu'il appelle le reste à vivre s'est rétréci avec l'augmentation des dépenses contraintes, ceux pour lesquels la vie est coupée en deux et piétine à partir du milieu du mois. Il aimerait plutôt disposer d'indicateurs de dignité et de mépris, de ghettoisation et d'éloignement social, d'appréhension des peurs et des fantasmes pour saisir cette mobilisation hétérogène. Car ce n'est pas seulement une différence de revenus que pointe la révolte, mais une vie qui se déploie et s'accroît d'un côté de l'échelle sociale et une vie rétrécie et comme à mi-temps de l'autre, dit Rosanvallon, avant de réclamer une politique du pouvoir vivre plutôt que du pouvoir d'achat qui est, il faut bien le dire, assez peu excitante. Enfin, l'historien insiste à juste titre sur le fait que ce sont autant des émotions, des affects, des sentiments que des données économiques objectives qui fédèrent le mouvement et qu'on devrait les considérer avec autant de sérieux que les chiffres de l'INSEE. Parmi ces sentiments, l'isolement, la solitude, ce qu'on appelle l'absence de lien social, ont certainement participé à faire des ronds-points, de nouveaux parlements pour les invisibles, des lieux de parole, d'écoute, d'échange, des cafés du commerce ou des places publiques. Autrement dit, être gilet jaune, c'est aussi, et peut-être même avant tout, se parler, se rencontrer, échanger, s'embrasser peut-être, se retrouver, se chauffer au bras zéro, partager, être ensemble, faire société, comme on dit, ou encore recréer du lien social pour utiliser toutes ces expressions, hélas, vidées de leur sens. On essaie aujourd'hui de leur en redonner un peu de sens, en partant à la rencontre de ces gens qui en ont rencontré d'autres et ont causé à leur problème. Prochain. Trois histoires racontées par Alice Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Elisabeth Ecker, j'ai 66 ans. Ça fait 6 ans que je suis à la retraite. Je suis mère de famille de 3 enfants. Je donne la moitié de ma semaine à m'occuper de mon père et de ma sœur handicapée. Bah, je prends le train parce que je n'ai pas les moyens d'avoir de voiture. Et donc, c'est vrai que je fais les navettes. J'ai pour 1h30 l'aller, autant le retour. Et je pars 2 jours et demi, 3 jours par semaine. Je lui prépare ses repas, je m'occupe de son linge. Puis voilà, on se relaye avec ma sœur aînée, toutes les deux. Là, on est à Commercy, donc en Lorraine, une ville de 6000 habitants. On a souffert un peu quand le régiment a été dissous. Il n'y a pas beaucoup d'industrie. Autrement, voilà, j'ai été commerçante pendant plusieurs années. J'avais commencé par la coiffure il y a très longtemps. 6 ans de coiffure. J'aurais aimé continuer, mais je n'ai pas pu. Voilà, parce que j'ai suivi mon mari, qui ne voulait pas que je travaille. À l'époque, il fallait encore demander l'autorisation à son mari pour travailler. Je me suis mariée en 73 et la loi a changé en 74. Bon, peut-être qu'il le savait, il ne le savait pas, mais il en a profité. Après, j'ai fait du bénévolat comme il était militaire. J'ai organisé des défilés de mode, je faisais de la peinture sur soie, je faisais des petites choses. On faisait partie d'un club de femmes de militaires. Et c'est vrai que, quelque part, ça m'ouvrait du monde, ça m'ouvrait d'autres possibilités. Lui, il était dans la caserne. La journée, j'étais à peu près tranquille pour aller vaquer à mes occupations. L'essentiel était que je rentre à l'heure, que je sois là pour les enfants et que les courses soient faites, qu'il ait à manger. Voilà, c'était l'essentiel en fait pour lui. Je suis restée mariée 28 ans. Et le jour où j'ai eu envie de dire stop, j'ai dit stop et c'était définitif. Donc après, avec le divorce, on est obligé de vendre. J'ai eu l'opportunité de trouver un tout petit bar et là je suis venue en tant que célibataire m'occuper de ce petit bar qui prenait 12, 13, 14 heures par jour, mais ça fait rien, c'était intéressant, j'aime le contact en fait. Et nous mouvement a commencé donc le 17 novembre, ça va faire 2 mois déjà. C'est vrai que les gilets jaunes, c'est parce que j'avais des proches qui ont été investis dès le premier jour et j'ai eu envie de m'y intégrer parce que je me sens concernée par rapport à ma retraite qui est quand même pas très élevée, même ayant été commerçante, ayant cotisé 25 ans, j'ai pas grand chose de retraite, je dois avoir 800 euros. Alors la première journée gilets jaunes, je me suis retrouvée sur un rond-point avec très peu de gens que je connaissais, beaucoup de gens que j'avais dû croiser en tant que commerçante, mais que j'ignorais parce que je ne les connaissais pas. Et j'ai vu tout de suite, moi je m'appelle Paul et toi c'est comment, elle c'est, voilà, Martine, machin. J'ai vu tout de suite ce lien, cette solidarité, c'est tu veux un café, bouge pas, je vais t'en chercher un, faire le feu dans les braseros, se rapprocher tous autour. Mais c'est génial. C'est des moments... Ça n'a pas de prix, quoi. Et puis, on n'a fait que des... On n'a pas fait de blocage. On a fait surtout des filtrants. On échangeait, on dialoguait aussi. Et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Où... Après, on a eu notre cabane. Donc, c'est notre chez-nous. Moi, quand je ne suis pas à Commercy, ça me manque terriblement. Alors j'appelle les amis, t'as des nouvelles, ça s'est passé comment, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et on est vraiment pris 12-15 heures par jour en fait. Parce que elle est ouverte très tôt, à 17h30 on a nos âgés, donc qui durent 1 heure, 2 heures. Et après, si on va se boire un petit café en sortant avec 2-3 personnes, on reparle que de ça. Ça ne m'était jamais arrivé de me mobiliser. Non, moi j'ai connu mes 68, mais j'étais déjà dans mon salon de coiffure en tant qu'apprentie, enfermée dans le salon. Mais je ne l'ai pas vécu, j'étais toute jeune, je ne l'ai pas vécu. Non, pour moi, c'est un premier, comment je pourrais dire, une première forme de révolution pour laquelle je me sens concernée. Bon, c'est peut-être un mot fort, révolution, mais je veux dire... où je me sens impliqué parce que, même si j'ai pas de voiture, au début, il y en a un qui m'a dit « T'es là, mais t'as pas de véhicule. » Mais je dis « Mais les taxes, je les paye quand même, que ce soit le gaz, l'électricité. Je donne 110 euros par mois de gaz. » Ça fait des années où je me dis « Bon, je fais attention, je vais réduire le chauffage. » Ok. Mais quand je vois mes factures arriver, je donne plus. Moi, je réduis ma consommation, mais... les taxes augmentant, je paye toujours un peu plus de gaz. Et c'est un peu pareil en électricité. Alors, quand on voit tous les mois payer déjà ça, plus 90 euros d'électricité, plus... après, il reste pas lourd. Quand on regarde une facture d'eau, il y a combien ? Il y a 60-70% de taxes par rapport aux consommations. C'est galère, on dort pas toutes les nuits. Beaucoup de gens confondent la précarité et la pauvreté avec des cassos. Et moi, c'est un terme que je ne supporte pas. Quand je l'entends, ça m'horripile. Parce que je vous dis, on peut avoir... Personne n'est à l'abri d'avoir eu une bonne situation, de se retrouver au chômage, un divorce, une faillite dans une entreprise, et quelqu'un se retrouve à galérer. Et c'est pour ça qu'on est là. Et... On n'est pas que des cassos. Moi, j'accuse personne, j'accuse juste le système. Nous, on est apolitique. Moi, je ne sais pas la personne qui est à côté de moi quand on fait nos âgés, ce qu'elle pense côté politique. Ça ne nous regarde pas. On est gilets jaunes, d'abord. Je crois que ça va faire un vide le jour où cette cabane, elle va partir. Ça fait bouger à Commercy. Alors quand on se promène, moi des fois j'oublie d'enlever mon gilet pour aller à la pharmacie ou pour aller... J'y pense pas parce que ça fait partie de ma tenue. Et quand je n'ai pas le gilet, pour moi je suis en civil, quelque part. Bon, c'est peut-être... c'est mes idées à moi. Mais et c'est là qu'on voit des gens qui nous disent bravo, qui nous disent c'est bien ce que vous faites. C'est réconfortant. Il y en a d'autres qui nous ignorent, mais ça c'est leur choix, c'est leur liberté. Puis voilà, puis il y a les commerçants qui nous aident, il y a les commerçants qui nous amènent des tas de choses, le bar qui nous amène du café. Il y a des tas de solidarité, même avec certains commerçants, qui nous donnent des légumes, qui nous donnent... c'est géant, quoi. Je me sentais un petit peu isolée. Et là, le fait... avec mon âge, 66 ans, que le petit jeune de 20 ans, 25 ans, te tutoie, parce que t'es gilet jaune, t'écoutes, et puis, oui, quelque part, ça redonne un petit peu de vigueur, de se sentir écouté, de se sentir un peu considéré, de se sentir un peu... on retrouve un peu de dignité que des fois, on peut perdre quand on galère, quand... voilà. Oui, je pense que les gilets jaunes redonnent de la dignité. Mais on se dit, au 14 juillet, on fera un feu d'artifice devant notre cabane, si elle est encore là. Parce que on sait que ça peut encore être long, mais on ira jusqu'au bout. Ben, je devrais parler pour moi, en tant qu'Elisabeth. Je resterai là jusqu'au bout.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Julien, je vis et travaille à Rouen. Et donc, gilet jaune depuis le premier week-end. J'ai travaillé rapidement à 18 ans dans la sécurité. Après ça, j'ai décidé de reprendre des études parce que je voulais une évolution de salaire. Et un travail qui me plaisait plus que ce que je faisais dans la sécurité. Je faisais des rondes en voiture la nuit, ça ne passionnait pas. Même si c'est un métier qui m'a permis de vivre pendant 3 ans, je le critique pas du tout, mais c'était pas un métier dans lequel je me voyais faire ma vie. Donc j'ai fait un master, un bac plus 5, qui me permet du coup d'être cadre aujourd'hui à 27 ans dans les achats. Donc mon métier c'est de faire du business grossièrement, mais qui me permet d'avoir également un très bon niveau de vie. Je peux le dire, je gagne aujourd'hui 2000 euros net par mois. Le premier dimanche, je suis passé au rond-point des Vaches, donc qui est un rond-point assez connu maintenant. C'était très bon enfant, il y avait des hommes, des femmes, des plus jeunes, des enfants. Il y avait vraiment absolument aucune agressivité. Puis je suis passé par ce même rond-point 4 heures plus tard. Et j'avais l'impression d'être dans une zone de conflit, c'est-à-dire que tu ne voyais plus rien, il y avait du gaz de partout. Ça m'a un petit peu été le déclencheur, je pense, de ma volonté de me dire, voilà, c'est une manifestation, tout ce qu'il y a de plus pacifiste. Ce qui s'est passé n'est pas normal, j'ai envie d'en savoir plus. Et pendant plusieurs semaines, j'ai été tous les soirs au rond-point de la Motte. Je n'avais jamais manifesté, en fait. Je n'avais jamais eu cet élan-là. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération... où on n'a aucune conviction politique et on vote par dépit, on vote pour le moins pire en fait. J'ai un peu d'une famille qui n'a aucune foi dans le visage politique actuel. On ne s'est jamais senti représenté. Moi, mon père était ouvrier, il est maintenant à la retraite. Et ma mère est assistante maternelle, donc j'ai jamais manqué de rien, mais j'avais jamais rien de trop non plus, comme mon père disait. La fin du mois a commencé à peu près le 10 chez moi. On a eu des très longs moments de disette financière. Hein. J'avais tous les ans, ils se débrouillaient pour m'acheter des vêtements neufs pour que je puisse aller à l'école. Et puis après, mes activités sportives, donc une licence de foot qui coûte 50 balles à l'année à peu près. Et puis basta cosy, quoi. On n'allait jamais au resto, on n'allait jamais au ciné, on n'osait jamais d'activités. T'as la mère qui dit faut qu'on fasse les courses, et que t'as le père qui dit avec quel argent, quoi. Dire avant c'était quotidien, c'était on mangeait des conserves, et pourtant mes parents n'ont jamais été feignants, ils ont travaillé toute leur vie, hein. Même si aujourd'hui j'ai des revenus plus que convenables, j'oublie pas d'où je viens. Je veux dire, pour moi c'est une évidence, de l'appartenance à ce mouvement est pour moi une évidence maintenant. C'est plus un mouvement de classe sociale dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je continue de vivre, où je retrouve la solidarité qu'on peut avoir entre nous, mais simplement à beaucoup plus grande échelle. Ce mouvement permet d'être entendu, en fait. C'est vraiment le sentiment de pouvoir s'exprimer, en fait. Ouais, c'est... difficile de s'afficher gilet jaune dans le monde du travail. Vaut mieux être un petit peu discret sur mes activités du week-end et de la semaine aussi d'ailleurs, hein, de gilet jaune. de manifestants. J'essaie d'être le plus discret possible là-dessus, de le cacher. Et voilà. Donc du coup, j'essaie de ne pas montrer que je suis gilet jaune. Même si au final, je suis fier de ce que je fais le dimanche, je sais en fait que si je le montre, on va me regarder très différemment et je pense que c'est pas forcément bon pour ma situation dans une entreprise et les échanges que je pourrais avoir avec d'autres personnes. Je pense que je risque pas grand chose à part d'avoir une mauvaise image en fait, de montrer que je suis en total décalage avec le reste du groupe. Tu vois. Je suis quand même quotidien avec des personnes qui ont un niveau de salaire bien plus élevé que le mien. Je suis, comment dire, nouvel arrivant dans l'entreprise. Donc c'est assez difficile pour ces personnes probablement d'avoir un regard sur des mouvements sociaux s'ils n'ont pas connu eux-mêmes cette classe sociale auparavant. Pour eux, ça reste de l'ordre de la fiction. Par exemple, j'ai mon manager il y a 15 jours qui a qualifié les gilets jaunes de grilleurs de saucisses. On ne doit pas venir de la même classe sociale, je pense. On n'a pas les mêmes revendications. Ça montre aussi un petit peu la fracture sociale qu'il peut y avoir en France entre les bas salaires et la classe aisée. Donc.
Du coup, par exemple, le lundi, quand tu arrives...
Ouais, on me demande si j'ai passé un bon week-end. Donc je dis la vérité en soi, je dis que je me suis baladé à Rouen. Et ce qui, dans l'absolu, n'est pas faux. Et je ne dis pas avec qui j'étais, tout simplement. Si on me pose la question, je ne nierai pas. Mais je ne suis pas convaincu que ça ne tomberait pas rapidement dans un dialogue de soi. Au travail, comment dire, une fois que tu dis comme ça, maintenant de vive voix, je me dis que peut-être voilà, je devrais dire « nous on manifeste, nous on fait ci, nous on fait ça ». Quand tu le dis de vive voix, tu te sens peut-être coupable et de me dire que je devrais peut-être l'assumer. Je pense qu'il se doute qu'effectivement j'ai au moins de l'affection pour ce mouvement, sans se douter forcément que je vais aller manifester tous les samedis. Mais j'y vais quand même, bien sûr, j'y vais quand même, parce que voilà, c'est j'ai mes principes et je suis assez têtu quand même.
Je m'appelle Karine, j'habite à Épinal, j'ai 22 ans. J'ai fait un break niveau travail pour me consacrer entièrement aux gilets jaunes, puisqu'on avait énormément de travailleurs avec nous qui ne pouvaient pas lutter H24. Tout d'abord, j'ai fait des études en filière littéraire. J'ai été ensuite un an en fac de psychologie, où on était dans un amphithéâtre, une partie des élèves assis par terre parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tous. Donc ça m'a vite lassée. Ensuite, j'ai fait un bac plus 2 à l'IUT Hubert Curien, donc en technique de commercialisation dans le secteur là, du tourisme. Je voulais faire un tour de France, déjà, et plus si j'aurais eu les moyens, mais j'ai rendu mon appartement. Mon précédent travail est également fini. Mais avec les gilets jaunes, effectivement, j'ai abandonné cette idée de voyage et je préfère consacrer mon temps à une cause que j'ai toujours défendue, à des mœurs qui me sont toujours tenues à cœur, plutôt que de voyager et faire comme si de rien n'était. Quelques semaines avant le 17, j'en avais entendu parler. Et pour moi, c'était une évidence d'y aller. J'ai toujours participé aux manifestations. Je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait les manifestations pour les retraités, il n'y avait que les retraités. Lorsqu'il y avait les manifestations pour les étudiants, il n'y avait que les étudiants, etc., etc. Et on brassait toujours et on n'arrivait jamais à s'unir. Alors forcément, les gilets jaunes, c'est l'accumulation de tous ces petits qui ont enfin compris qu'à un moment, il faut s'unir. Les gilets jaunes ont réussi à faire une chose que le gouvernement n'a jamais réussi à faire. Il nous a réunis. C'est un mouvement qui nous a tous réunis. Nos premières revendications, déjà, c'était justement cette injustice sociale et surtout fiscale, puisque à l'heure actuelle, avec l'ISF, l'exit tax, le CICE, il y a énormément de corruption, de privilèges. On demande qu'il y ait une équité, que lorsque nous, en tant que petits travailleurs, on nous ponctionne tout le temps, que ce soit les taxes, carburant, ça c'était du feu aux poudres, mais il y a également beaucoup d'autres choses. On ne parle pas de nos retraités, on ne parle pas ni de l'allocation adulte handicapé, on parle d'une baisse de pouvoir d'achat. Pour faire des économies, je n'ai mangé que des pâtes durant un an. Mais ça veut dire pas de cinéma, pas de restaurant, rien, rien du tout. À un moment, si on veut se faire plaisir, on est obligé de se tuer aussi un peu de soi-même. Il faut sacrifier des heures, des journées, des années pour avoir quelque chose à la fin, un peu de plaisir à la fin. C'est pas une vie. Ça va s'en rendre fou, surtout quand on voit justement ces gros qui s'enrichissent. Mais ça a pété les plombs. Nous, on veut vivre décemment. On veut vivre dignement. On veut vivre de notre travail. On ne veut pas survivre par notre travail. On veut vraiment vivre. Déjà, j'ai déjà eu mes parents qui sont toujours crevés. Je suis désolée pour le terme. Pour nous payer des beaux cadeaux, pour nous faire plaisir au quotidien. Et on ne les voyait pas partir en vacances, pas s'offrir. Les voitures, c'était des voitures d'occasion. Ils raquaient avec des crédits pour les avoir. Mais en contrepartie, nous, on avait des beaux cadeaux. Mon père est ouvrier. Donc, il travaille à la ville de Golbey. Et ma mère, elle est nourrice. Enfin, elle garde des enfants chez moi. Ma famille n'est pas hyper politisée. Pour ce qui est de mes parents, il y a eu un certain dégoût quand même au niveau politique. Je sais que par rapport à ma mère, ça a été Mitterrand. Il y a eu un gros dégoût lorsqu'il n'a pas su assurer ses promesses. Mes parents sont forcément inquiets pour moi. Ils m'ont toujours entendu protester. Ils ont toujours su qu'un jour, j'allais être devant à créer mes revendications. Depuis que je suis petite, ma mère m'a dit... T'es le bouclier contre la veuve et les orphelins. Enfin, moi, ouais, depuis que je suis jeune, en fait, on m'a toujours reproché d'être une grande gueule et de pas savoir me taire. On a toujours voulu mettre une muselière et je l'ai toujours refusé. Donc, moi, je fais partie de la team Golbey, comme on l'appelle. Donc, on a notre rond-point à Golbey. Forcément, il y a une certaine tension qui monte. Ça fait deux mois qu'on lutte tous ensemble, deux mois qu'on vit ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la coloc, mais c'est vrai que parfois, il y a certains colocataires qui sont plutôt... Alors oui, bon, bah, on se marche un peu sur les pieds. Parfois, quand on fait des réunions, c'est un peu le brouhaha, ça tape sur les nerfs. Mais il en ressort toujours du concret. Et finalement, on est toujours plus soudés, toujours plus unis. J'ai rencontré Dylan à ce même rond-point, le premier jour, donc le 17 novembre. On a discuté de tous les problèmes de la société et autres. On s'est trouvé énormément de points communs. Le courant est passé. Tous les jours, on se revoyait. On prenait qu'une heure pour rentrer chez nous, pour prendre la douche. Sinon, on était tout le temps sur le rond-point. Dylan et moi, ça nous a rapprochés. Après, c'est comme les policiers qui font les tours de ronde ensemble. Hein. On sait très bien qu'il y a eu des couples qui se sont formés comme ça. Donc, c'est également pareil du côté inverse. En fait, j'ai seulement de repenser, c'est assez drôle. C'est le jour où les CRS étaient censés débouler justement sur le rond-point du Leclerc. On était dans la voiture à faire le guet, à se demander quand est-ce qu'ils allaient arriver. Bah, là, on a eu notre premier baiser. Quelques heures plus tard, on a eu l'alerte que les CRS déboulaient. On a couru dans tous les sens. On a réussi à s'échapper avant qu'ils nous chopent. C'est vrai, on s'est embrassé le jour où les CRS sont arrivés. Donc, ça va bientôt faire deux mois, du coup, qu'on est ensemble. Tout se passe toujours aussi bien. À la base, Dylan m'avait confié, enfin m'avait dit, chiche, je t'épouse, tu deviens ma femme. Et on s'est dit, vas-y, va chercher les documents en mairie, on se marie ici, voilà, la balèque quoi. C'était vraiment sur un coup de tête. En plus, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est bon, il faut vivre notre vie au jour le jour, on va pas se tracasser.
Et on s'était dit, bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On s'en fiche, c'est des fiançailles, on fait ce qu'on veut. Et du coup, je sais pas comment dire, ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait, et puis de toute façon, je le voulais, il le voulait. Enfin, pour les fiançailles, nos parents étaient effectivement au courant. Mais ils étaient également au courant qu'on allait tout faire pour le faire au rond-point. Et eux avaient déjà des invités. Donc oui, on les a invités, on leur a proposé de venir, mais effectivement, eux ne pouvaient pas se désister et dire « Attendez, je vais au rond-point ». Du coup, on s'est fiancés le 24 décembre, la nuit du 24 décembre. Et pareil, c'était plutôt folklore. Ah mais du coup, on s'est mis au milieu du rond-point, on a tiré des feux d'artifice, on m'a mis la bague au doigt, je lui ai dit oui. Ah, vous voyez bien, quoi, des fiançailles. Avec Dylan, forcément, on envisage un beau futur. Si on s'est fiancé, c'est forcément pour se marier dans le futur. Après, vous dire concrètement ce qu'il en sera, je ne sais pas si on habitera en France ou autre part. Je ne sais pas si on aura une maison, un appartement. Je ne peux rien vous dire là-dessus. De toute façon, à l'heure actuelle, on est vraiment centré sur les gilets jaunes. J'ai attendu ça aussi toute ma vie. Si on viendrait à mourir pour nos convictions, ça nous ferait pas peur. Donc oui, on est prêt à tout quitter pour nos convictions. On est prêt à tout faire pour croire en l'avenir. À l'heure actuelle, croire en l'avenir, c'est difficile. Enfin, c'est vaut mieux vivre au jour le jour.
Lay me down, pile it on your floor. Make me down, pile it on your floor. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor. When I'm sleeping, my back and shoulders tight.
C'était Rencontrer l'autre et les gilets jaunes, un reportage d'Alice Babin réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci à Karine, à Dylan, à Elisabeth, aux gilets jaunes de Commercy, à Julien et à PH. Comprendre une révolte inédite, c'est un recueil de textes aux éditions du Seuil que je citais dans ma petite présentation, qui ont été réunis et présentés par Joseph Confavreux, qui est bien connu des auditeurs de France Culture puisqu'il intervient régulièrement dans Avis Critique, l'émission de Raphaël Bourgois. C'est Jeanne Delecroix, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire. I'm gonna